franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Les bestiaires du Moyen-Âge.
Ah, frère bibliothécaire, peut-être nous permettriez-vous d'examiner le travail des deux infortunés qui ont été si douloureusement rappelés à Dieu. Un âne enseignant les Écritures aux évêques. Le pape en renard et messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie.
Dans Le Nom de la Rose, souvenez-vous, apparaissait dans la bibliothèque du monastère un manuscrit enluminé où les figures de la religion étaient mises en correspondance avec des animaux. C'était un bestiaire, mais un bestiaire d'un genre provocant et né de l'imagination du romancier. Généralement, au Moyen-Âge, les bestiaires, en décrivant les attributs des animaux, parlaient en effet de Dieu, du diable, du mal, mais ils enseignaient une morale commune et ensuite, ils nourrissaient la prédication, les sculptures, qu'on pense aux chapiteaux des églises, et aussi les fables et les contes. Ils relevaient de la théologie et non de ce que nous appelons aujourd'hui la zoologie. Est-ce à dire que les hommes et les femmes du Moyen-Âge, face aux animaux, étaient incapables d'observation ? Non, mais quand ils parlaient des animaux, ils observaient des conventions qui n'étaient pas les nôtres. Messire Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes Michel Pastoureau, un drôle d'oiseau qui s'est toujours passionné pour des sujets négligés.
C'est vrai, oui, et ça n'a pas toujours été facile, surtout à mes débuts, l'histoire des animaux, l'histoire des couleurs, quelques autres aussi.
Alors vous publiez aux éditions du Seuil les bestiaires du Moyen-Âge. Le bestiaire, c'est un genre littéraire.
Oui, c'est un genre littéraire. C'est un livre qui parle des bêtes, mais comme vous l'avez très bien dit, ça n'est pas un manuel de zoologie, en tout cas au sens où nous l'entendons. Les bêtes sont un prétexte. On décrit leur nature, leurs propriétés, mais surtout on insiste sur leur signification, leur sénéfiance, comme on dit en ancien français. Donc ce sont des livres qui enseignent les hommes et les femmes qui les lisent, les entendent, soit directement, soit plutôt indirectement, par le relais, en effet, de la prédication et d'autres formes de littérature orale, comme les contes, les fables.
Qui les lisent en français, en latin. D'abord le latin, bestiarium, et ensuite
d'abord en grec.
Passage aux langues vulgaires. Oui, la cristallisation commence pendant l'Antiquité.
Voilà, les plus anciennes formes sont en grec, puis rapidement en latin. Et du latin, on passe au XIIe, XIIIe siècle à des formes vernaculaires, ancien français, moyenno-allemand, puis néerlandais, toscan, langue de la péninsule ibérique. Bref, c'est un genre qui connaît un grand succès. Nous avons conservé de nombreux manuscrits, dont beaucoup sont accompagnés d'images.
Alors, ces manuscrits enluminés, certains sont très célèbres, conservés à Oxford, à Aberdeen, à Saint-Pétersbourg. Il y en a beaucoup d'autres. Comment se présente l'objet ?
L'objet se présente comme tout manuscrit du Moyen-Âge, écrit et peint sur parchemin. En général, ce sont des formats relativement grands, avec beaucoup d'images. Une par animal au moins. Quelques vedettes ont droit à plusieurs images, comme le lion, l'aigle, l'éléphant. Et le texte court d'un bout à l'autre du manuscrit. En général, il n'est pas copié avec un autre texte, qui est fréquent en général dans les manuscrits médiévaux. Pour les bestiaires, ça n'est en général pas le cas.
Ce qui donne un peu le vertige, Michel Pastoureau, c'est que les parchemins sont faits de peaux de bêtes, l'enluminure est faite avec des plumes, d'oies, de canards, de cygnes.
Oui, l'animal est partout dans les matériaux qu'utilisent et le copiste, et l'enlumineur, et le relieur. Donc, dans le livre, avant même copie du texte et peinture des images, l'animal est présent par les matériaux qui sont utilisés. Un certain nombre de pigments sont tirés du monde animal, des liants, des cols, des racloirs, une dent de loup pour polir le parchemin, une patte de lapin ou de lièvre pour épousseter le travail terminé.
Et la plume, on la trempe dans un encrier qui est fait avec
un coquillage le plus souvent ou une corne de bovidé.
Une corne de bovidé, pas de licorne. On parlera de la licorne tout à l'heure. La licorne qui appartient à une des catégories spéciales des bestiaires, nous, on a les catégories zoologiques, les classifications géologiques. Les catégories médiévales, c'est autre chose.
C'est autre chose, oui. Des notions qui nous sont familières sont inconnues. Mammifères, par exemple, ça n'a pas grand sens avant le XVIIIe siècle. La notion d'insecte est inconnue. Elle n'émergera vraiment qu'au XVIe siècle. Donc, au Moyen-Âge, on classe les animaux différemment de nous. On le fait comme le faisaient les Romains. 5 catégories. Les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et tout ce qui vit dans l'eau, les serpents, un monde très très large qui inclut les dragons, et puis tous ceux qu'on n'a pas pu classer dans les 4 premières catégories, on les range dans une 5e qu'on appelle les vers, parce qu'en général ce sont des petits animaux, en effet la vermine, les insectes, les petits rongeurs, les petits crustacés, quelques mollusques, ce qui fait que l'abeille, le rat et la crevette sont rangés dans la même catégorie.
Oui, moi je vous propose, puisqu'on est en pleine liberté, d'en ajouter encore les catégories qu'aujourd'hui nous disons imaginaires, les catégories qu'aujourd'hui nous disons domestiques. On va essayer de les explorer en commençant donc par les imaginaires. La licorne, pour nous, c'est imaginaire. 1960, un texte imaginé pour Maria Cazares devant la tapisserie de la Dame à la licorne.
Dans une forêt profonde, dans l'herbe toujours fraîche et parmi les fleurs éternellement nouvelles, vivaient des animaux paisibles. Au centre de cette forêt vivait une vierge fée qui aimait le roi des rois. Un matin de printemps, grâce à son miroir magique, la vierge évoqua la licorne des neiges. Portée par la lumière, la licorne traversa la forêt, s'agenouilla et reconnut sa blanche image. Le miroir devint celui de la pureté même, et pour le défendre parut le lion à la crinière de flamme, farouche gardien qui dort les yeux ouverts. Saisissant la corne de cristal, la fée prête à vaincre pour le triomphe de son amour, se leva. Tous les animaux durent reconnaître son pouvoir et ils furent soumis à la garde du lion.
Alors au XVIe siècle, plus tard, après le Moyen-Âge, les gens vont se dire « c'est curieux, la licorne, ça n'apparaît pas dans les triomphes des empereurs romains ». Mais au Moyen-Âge, c'est un animal réel.
C'est un animal bien réel, comme est réel le dragon ou comme peut-être réel le griffon, le phénix. Pour d'autres, on se pose des questions. Par exemple, la sirène, des auteurs du Moyen-Âge hésitent. Est-ce que ça existe vraiment? Mais pour la licorne, il n'y a aucun doute. Et encore, dans des ouvrages de zoologie du XVIe et du XVIIe siècle, on va garder un chapitre sur la licorne, au cas où ça existerait vraiment.
Il faut dire qu'on n'en a pas capturé souvent.
Non, elle est presque incapturable, puisque c'est un animal qui passe pour très farouche, très rapide à la course, mais doté d'une corne merveilleuse au milieu du front, une corne unique, torsadée, très longue, qui a des propriétés prophylactiques, qui protège du poison, qui guérit de nombreuses maladies. Donc on cherche à s'emparer de cette corne et, au dire des bestiaires, les chasseurs utilisent une ruse. La licorne est un animal attiré par l'odeur des jeunes filles, donc c'est un principe mâle, plutôt la licorne. On installe au milieu d'une clairière dans la forêt une jeune fille, le torse dénudé, et attirée par l'odeur de virginité, il faut que la jeune fille soit vierge, la licorne sort des bois et vient poser sa tête sur le giron de la jeune femme, et là les chasseurs, embusqués, s'emparent d'elle traîtreusement.
Mais admettons qu'on puisse la capturer ainsi, elle ne va pas supporter la captivité.
Non, elle ne supporte pas la captivité, elle se laisse mourir, mais ce qui compte, c'est sa corne, et dans de nombreux trésors d'églises et d'abbayes, jusqu'à des dates avancées de l'époque moderne, on a conservé de prétendues cornes de licorne qui étaient en fait des dents de narval.
Mais un animal qui accepte ainsi la mort après avoir été capturé, ça n'est pas sans ressembler au Christ. Les animaux doivent amener des exemples qui font objet de réflexion.
Oui, tous les bestiaires font des comparaisons entre les animaux et les personnes divines, ou bien le diable et ses créatures. La licorne, c'est l'image de Jésus-Christ, en effet, qui se laisse mourir sur la croix pour racheter les hommes. La licorne, elle, se laisse mourir. Une fois qu'elle a été prisonnière, elle ne supporte pas la captivité. Donc, elle est à l'image du Christ et elle prend place dans le bestiaire du Sauveur.
Alors, autre catégorie, les animaux qu'aujourd'hui nous disons domestiques. Alors on pense spontanément aux chiens, mais il y a des animaux beaucoup plus domestiques pour le Moyen-Âge que le chien.
Oui, aujourd'hui, les zoologues définissent la domesticité par la reproduction. Sont domestiques les animaux dont l'homme maîtrise la reproduction. Au Moyen-Âge, on a une toute autre définition. Sont domestiques les animaux qui vivent dans la maison ou autour de la maison. Maison, c'est domus en latin. Donc, animal domestique, il est dans la maison, autour de la maison. Donc, bien sûr, le chien, le chat, les animaux de la ferme, ceux que nous considérons comme tels, mais aussi le corbeau, le renard, le merle, la pie, la souris, le rat, la belette, sont des animaux domestiques. Et dans les bestiaires, en général, on les range avec le bœuf, le cochon, le mouton, le chien et le chat.
Alors le chat, on va retrouver le nom de la rose et puis aussi des hérétiques dangereux.
Combien de fois ai-je vu ces rites sataniques et ces objets pestiférés, chats et coqs noirs ?
Même Guillaume de Baskerville doit se rappeler le procès qu'il présida, où une femme confessa avoir eu commerce avec le démon incarné en chat noir.
Qu'on les enferme !
Il y a apparemment l'origine du mot cathare en occitan, dans la langue occitane. Ce sont les adorateurs du chat qui l'embrassent, que c'est bien sûr leur maître, le diable. Et jusque dans la légende de Saint-Dominique, par exemple, on nous raconte que Dominique est en train de prêcher des femmes qui se sont laissées convertir au catharisme. Aussitôt, elles virent sauter du milieu d'elles un chat affreux qui avait les proportions d'un grand chien, avec des yeux gros et flamboyants, une langue longue et large, injectée de sang, et qui allait jusqu'à son nombril, sa queue courte et relevée, laissait voir toute la turpitude de son derrière, et il s'en exhalait une puanteur insupportable. On peut dire qu'on a absolument le portrait du diable, ce qu'on pourrait appeler pour garder le calembour sur les chatards.
La voix de Claude Guignebec, qui est comme vous un historien curieux d'un peu tout, Michel Pastoureau.
Oui, et qui est un ami avec lequel j'ai souvent travaillé, qui s'intéresse aux bestiaires. Et le chat, en effet, pendant longtemps, est un animal diabolique. Il voit dans les ténèbres, ce qui n'est pas bien. Il vit la nuit, il a un pelage noir ou rayé, ce qui est très négatif. Bref, on le regarde comme un animal plus ou moins démoniaque. Et puis son statut change au cours du Moyen-Âge, au XIVe siècle, la Grande Peste, au milieu du siècle, fait périr presque un tiers de la population européenne. Et on prend plus ou moins conscience que les rats sont peut-être des agents propagateurs de l'épidémie. On se demande si le chat ne serait pas plus efficace pour chasser les rats que les belettes qu'on utilisait jusque-là, comme le faisaient d'ailleurs déjà les Grecs et les Romains. On tente l'essai, le chat se montre plus efficace, il a donc le droit d'entrer dans les maisons, ce qui est nouveau, et le regard change assez rapidement. À la fin du Moyen-Âge, le chat est déjà l'animal familier que nous connaissons. Montaigne a écrit des pages magnifiques quelques décennies plus tard sur ses chattes.
Mais dans les bestiaires que vous étudiez, qui datent souvent du XIIe, XIIIe, le chat n'est pas encore une figure centrale, le lion, oui.
C'est un lion qui tombe en amour pour une demoiselle. Il lui tient tant de beaux discours qu'elle n'est point cruelle. Elle l'invite à la maison, plaignez, plaignez le pauvre lion. Entrez, entrez, messire, entrez, ma fille vous espère. Mais pour l'heure, vous entendrez les conseils d'un beau-père. Les griffes que vous avez là seront autant de coutelas dessus sa chair si tendre. Quant à vos baisers, halte-là, car les canines que voilà vont bien trop la surprendre. Entrez, nous vous arrangerons, plaignez, plaignez le pauvre lion. Et par amour le lion souffrit qu'on lui rogna les ongles. Il laissa sans le moindre cri limer ses dents si longues. La belle lui passa au cou une manière de licou comme on met au caniche. il ne résista pas beaucoup, et pour ne pas prendre de coups, il entra dans la niche. On lui fit garder la maison, plaignez le pauvre lion.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Michel Pastoureau qui publie aux éditions du Seuil les bestiaires du Moyen-Âge. Très gros objets enluminés, manuscrits, dont on tire des prêches, des sculptures, des sceaux, des armoiries, des contes et des fables. Alors, à l'époque où vos manuscrits sont composés, c'est aussi la première branche du roman de Renard. On est à la fin du 12e, au début du 13e siècle, un véritable laboratoire d'analyse des animaux.
Oui, le roman de Renard, c'est un ensemble de textes dont les plus anciens datent en effet des années 1175-80. Et ça se poursuit sous la plume de différents auteurs jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Le genre survient un peu et même dégénère à la fin du XIIIe siècle. Mais c'est un ensemble de textes extrêmement importants en langue vernaculaire qui influence beaucoup l'iconographie, la prédication, puis dans la longue durée, les proverbes, les fables, jusqu'aux livres pour enfants aujourd'hui, et qui a même des influences sur le lexique, puisque le nom propre du goupil, renard, est devenu un nom commun, et goupil a tendance à devenir un nom propre.
On a même fait une adaptation à la télévision, c'était en 1980 avec Dominique Coudard.
Noël 1177, trêve universelle sur la Terre.
Paix à toute créature, sa majesté le roi, noble le lion, ordonne à ses fidèles sujets, tous les animaux du monde, de se pardonner fraternellement leurs communes offenses et de vivre dans la paix, sans se faire aucun mal.
Oh, j'ai faim, maman, j'ai trop faim.
Moi aussi, j'ai trop faim.
Mes pauvres enfants, qu'allons-nous devenir?
Je pars à la chasse.
Tu es fou?
Laisse-moi.
Mais voyons, renard, mon ami, mon cher époux, l'édit du roi, as-tu oublié? Sera puni celui qui désobéira.
Absurdité royale, mamie. Ventre affamé n'a pas d'oreille, je n'ai rien entendu.
Oh, on a tous entendu.
Alors j'ai tout oublié, Hermeline. Je n'entends plus qu'une seule chose, nos petits qui pleurent.
Je les entends aussi, hélas. Mais le roi est si puissant.
Eh oui, puissant. Ah, je me demande à quoi pensent ceux qui nous gouvernent. Est-ce notre faute à nous si, pour survivre, il nous faut tuer ou mourir?
Alors, ce renard, il est finalement plus sympathique que dans vos bestiaires. Il veut nourrir ses renardos, alors que dans vos bestiaires, c'est Judas.
Dans les bestiaires, il est très très négatif. Oui, c'est un animal menteur, rusé. Il a un pelage roux, ce qui est toujours négatif dans la culture médiévale.
Et pourquoi est-ce que le roux, c'est la couleur de Judas?
C'est pour la même raison. On a l'impression que la rousseur associe... Toutes les couleurs sont ambivalentes, mais la rousseur associe les mauvais aspects du rouge et les mauvais aspects du jaune. Ça devient superlatif. Et dans l'iconographie, les personnages mauvais, voire très mauvais, ont à voir avec la rousseur. Judas, en effet, reçoit dans les images des cheveux roux à partir du XIIe siècle. Et plus encore, à la fin du Moyen-Âge, cheveux roux, robe jaune, il est gaucher. Bref, on ne peut pas ne pas le reconnaître. Et il est vraiment très, très négatif.
Bah oui, mais enfin, il marche la nuit. Il n'est pas si facile à reconnaître, surtout qu'il ne marche pas droit.
Voilà, c'est une interprétation de son nom latin, vulpes, volans pedibus. Il va en tortillant des pieds, dit l'étymologie. Et ça, c'est très négatif également dans la sensibilité du Moyen-Âge. Un bon chrétien se doit d'aller droit, d'entrer dans l'église de manière rectiligne et pas de manière en zigzag ou oblique. Bref, renard est négatif à tout point de vue. Dans le roman de Renard, il l'est un peu moins que dans les bestiaires, mais au fil des décennies et des branches, il devient de plus en plus dévalorisé et même très très inquiétant au XIIIe siècle.
Oui, et au fil des poèmes, à la fin des fins, pour le punir de ses exploits malfaisants, il est traîné devant la justice de noble lion.
Roi, je vous salue. Et mon salut est celui du plus dévoué et du plus fidèle baron que vous ayez en votre royaume.
Épargne-moi tes beaux discours, goupil. Penses-tu m'abuser, moi, ton roi, comme tu as abusé tous les autres? Que diras-tu de Chantecler, de Dame Peinte et Pleurée, et de tous ces chapons, de toutes ces gélines?
Ici, hélas, je ne puis que battre ma culpe.
Enfin.
Je n'ai pas la prétention de me faire passer pour un saint. J'ai moi aussi mes faiblesses. Devant une poule, un coq, une géline, je l'avoue, je ne puis me retenir. Ces volatiles me mettent en transe, tant je les déteste et les aime tout à la fois. Mais pourtant, sire, je ne puis le nier, je raffole du poulet. J'adore ces petits os menus qui font crac sous ma dent.
À mort ! À mort !
Bah à mort, mais c'est un si étonnant personnage que si on le mettait à mort, il serait capable de faire semblant d'être mort.
Voilà, il le fait d'ailleurs dans différentes branches du roman de Renard, il fait semblant d'être mort pour attirer les oiseaux, par exemple, qui viennent sur lui, et là il se réveille à plusieurs reprises, il tellement immobile qu'on croit qu'on peut s'emparer de sa peau, et il roule comme cela un certain nombre de paysans. Non, c'est une créature tout à fait diabolique, mais c'est quand même une vedette du bestiaire médiéval à tout point de vue, et il est resté à travers les contes, les fables, jusqu'aux livres pour enfants et au bestiaire des jouets en peluche aujourd'hui, où il occupe une très bonne place.
Mais à force de correspondance, revenons au Moyen-Âge, Michel Pastoureau, et d'identification entre l'homme et l'animal, voici qu'est sans cesse posée et reposée la question de la distinction d'espèce entre l'homme et l'animal. Alors, à l'époque de nos bestiaires et du roman de Renard, un homme saute par-dessus cette barrière des espèces, c'est Saint François d'Assise.
Tiens, bonjour mon frère Vaux. Bonjour ma sœur Truie. Bonjour mon frère Canard. Je veux vous remercier de m'avoir demandé de bénir vos animaux. J'attendais ce jour avec joie. Vous savez, les animaux de la terre sont aimés de notre Seigneur tout particulièrement. Ils nous aident à travailler, ils nous transportent, garde nos maisons la nuit, et mieux que tout, nous apporte la joie et les rires. Il ne faut jamais oublier le rire, même quand vous serez devenus de grands enfants comme moi.
Assez ! J'ai entendu rire et j'ai rappelé un des principes de notre règle. Certes, vous, franciscains, vous venez d'un ordre où la gaieté la plus inopportune est vue avec indulgence.
Oui, c'est vrai. Saint François, parfois, ne répugnait pas à rire.
Le rire est un souffle diabolique qui déforme les linéaments du visage et fait ressembler l'homme au singe.
Mais le singe ne rit pas. Le rire est le propre de l'homme.
Comme le péché.
Alors là, on a franchi la barrière des espèces cinématographiques. Il y a au début un film de Michael Curtis et ensuite Le nom de la rose, encore et une dernière fois, Michel Pastoureau.
Oui, François d'Assise représente un courant de pensée qui est peut-être minoritaire pendant longtemps au Moyen-Âge, mais qui vient de loin. Il est déjà présent chez Saint Paul et plus en amont chez Aristote. C'est l'idée d'une communauté des êtres vivants. L'autre courant, contraire, c'est celui qui sépare fortement l'espèce animale ou le monde animal et l'être humain. Mais on se pose beaucoup de questions sur les animaux, y compris dans les universités au XIIIe siècle, dans les écoles épiscopales auparavant. Est-ce que les animaux ressuscitent après la mort? Et si oui, où vont-ils? En enfer et en paradis comme les êtres humains, ou un enfer et un paradis spéciaux pour animaux ou spéciaux même pour chaque espèce? On se pose beaucoup de questions. Est-ce que on peut faire travailler les animaux le dimanche? Est-ce qu'il faut leur imposer des jours de jeûne, comme aux êtres humains? Parfois, ça nous fait rire. On conduit des porcs au tribunal et on les juge pour des crimes et délits.
C'est-à-dire que si l'animal est doué pour le salut, s'il est perfectible, il est responsable aussi de ce qu'il fait.
Voilà, il est parfois pensé comme un être moral et responsable. En tout cas, les animaux supérieurs seraient capables de distinguer le bien du mal. On les juge, donc on leur donne un avocat pour les défendre. On paye un gardien pour les surveiller. Et parfois, on les exécute. Parfois, ils sont acquittés. 9 fois sur 10, ce sont des cochons, parce que le cochon est pensé comme l'animal le plus proche de l'homme au Moyen-Âge. Mais il y a des débats. Théologiens et juristes s'interrogent. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les animaux sont vraiment responsables de leurs actes? Est-ce qu'ils font partie de la communauté humaine?
Et est-ce que Jésus est venu pour sauver seulement les hommes ou pour sauver aussi les animaux?
Voilà. Et certains théologiens répondent par ce qui pour nous est une boutade, mais pour eux très important. Ils répondent oui, Jésus est venu sauver aussi les animaux. La preuve, c'est qu'il est né dans une étable.
Oui, c'est une preuve. Quels sont les animaux les plus proches des hommes? Alors vous dites le porc.
Le porc, du point de vue intérieur, on pense que à l'intérieur du corps du cochon, tout est semblable à l'intérieur du corps humain. Et comme l'Église interdit la dissection du corps humain, dans les facultés de médecine, l'enseignement de l'anatomie humaine, au moins jusqu'à la fin du Moyen-Âge, s'enseigne à partir de la dissection du verrat ou de la truie. La médecine contemporaine, d'ailleurs, confirme pleinement qu'en effet, à l'intérieur, c'est tout pareil. C'est pour ça que la médecine d'aujourd'hui emprunte tellement de produits au porc et pas du tout au singe.
L'ours, il est censé être très proche de l'homme.
Il est pensé comme très proche de l'homme pour son aspect extérieur. Il ressemble à l'homme, il peut se mettre debout, prendre avec ses mains, danser, sauter, nager. On croit même que les ours mâles sont attirés par les jeunes filles et par les jeunes femmes, qu'ils les violent. Ça donne naissance à des êtres mi-hommes, mi-ours, qui en général sont toujours des guerriers invincibles ou des fondateurs de dynasties. Donc ours et cochons sont pensés comme les deux cousins de l'homme. Et parfois, certains auteurs en ajoutent un troisième, le singe.
Bah oui, notre observation nous ferait dire le singe.
Le singe. Mais il précise tout de suite, en fait, le singe ne ressemble pas du tout à l'être humain, mais il est tellement diabolique qu'il fait semblant de lui ressembler. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on ait l'idée d'un vague cousinage entre l'homme et le singe, confirmé au siècle suivant par Darwin et par tout ce qui a suivi.
Donc au fond, les hommes du Moyen-Âge se méfient des apparences.
Ils se méfient des apparences, pour eux, elles sont trompeuses, donc il faut rechercher au-delà des apparences et de tout ce que nous appelons la réalité, il faut chercher le vrai. Et au Moyen-Âge, on distingue très fortement le réel et le vrai. Ce n'est pas du tout la même chose. Le réel renvoie à ce qui se trouve ici-bas, à ce qui est de l'ordre de la physique, et le vrai se trouve dans l'au-delà, c'est de l'ordre de la métaphysique.
Oui, mais enfin, tout de même, les hommes du Moyen-Âge sont capables d'observation. Ils ont vu des lions.
Ils savent observer.
Ils ont vu parfois des éléphants.
Bien sûr, dans des ménageries. Ils savent observer, ils savent même dessiner, reproduire, mais ils n'ont pas l'idée que l'observation conduit à la vérité des êtres et des choses, du moins pendant une large partie du Moyen-Âge. Puis quand on va redécouvrir l'œuvre d'Aristote, on va commencer à se dire à la fin du Moyen-Âge que peut-être observer, c'est utile pour connaître non seulement le réel, mais aussi le vrai. On sera dans une période de grande mutation de ce point de vue-là.
Les bestiaires du Moyen-Âge, les chapiteaux, les blasons, c'est votre spécialité. Les sceaux, c'est votre spécialité. Et puis aussi, les fabliaux.
J'adore ces petits os menus qui font crac sous ma dent.
Mais c'est des questions qui sont devenues centrales. Vous êtes venu de la périphérie et vous êtes maintenant au centre des problématiques philosophiques et politiques.
C'est vrai.
La question centrale, quel animal ?
Aujourd'hui, l'animal est d'actualité, en tout cas au sein des sciences humaines. On se pose énormément de questions qu'on ne se posait pas il y a 40 ans, quand, jeune chercheur, j'ai commencé à m'y intéresser en historien.
C'était une rediffusion du 16 novembre dernier, réalisation Jacques Sigal, préparation Meryl Moneghetti, Franck Olivard, Frédéric Martin. Demain, tapis rouge pour un personnage important, le roi Babar, au moment où se tient une exposition à lui consacrée aux arts décoratifs à Paris.